Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM. RTVFM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Content de vous retrouver. On va, pour cette émission, je remplace Lionel qui nous fait faux bon ce soir. Il a décidé de ne pas venir nous voir. Donc, ben voilà, c'est moi qui vais être votre hôte pour ce soir. Je salue Valérie qui est avec nous. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tous et à toutes, évidemment.
Je salue Flo, le technicien.
Bonsoir à tous.
Et puis notre invité ce soir, Florian Bernardi, avec qui on va parler de sport mécanique, beaucoup, puisque c'est son domaine de prédilection. Bonsoir Flo.
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs.
Content de t'avoir avec nous Flo ce soir pour cette émission. Ce soir on va au programme, il y aura donc du sport mécanique, beaucoup, du rallye spécialement, avec l'actualité de Florian Bernardi, son activité perso, et puis on va aussi évoquer le championnat du monde, le rallye Monte Carlo qui commence très vite là maintenant. On va aussi parler de rugby à 13, de basket, de handball. On reviendra aussi donc sur la superbe victoire des filles de Mazan avant-hier, du côté de Bouillargues dans le Gard, qui les fait revenir d'aplomb au classement à la 5e place, mais on va y revenir. On va aussi parler de rugby avec la défaite de Monteux sur son terrain hier, avec un match un petit peu compliqué. La victoire du Sorgue Basket Club, du Sorgue Basket Club du côté de Feur. Là, c'est un superbe résultat à l'extérieur. Et puis, on va vous annoncer aussi, on va vous confirmer que demain soir, à partir de 20h, on sera en direct à la Plaine Sportive pour commenter le match de Coupe de France, le 16e de finale entre Sorgue et Nancy. On va aussi parler de rugby à 13. Et on recevra Jérôme Alonso, on aura Jérôme Alonso au téléphone pour parler de Carpentras. Et puis on parlera aussi des résultats de Entraigues. Et puis d'autres résultats probablement, Valérie.
Oui, de basket, entre autres, de foot aussi.
De foot aussi.
De foot, voilà.
Allez, on va attaquer directement avec Flo Bernardi, puisqu'il est là, on va en profiter. Il se fait rare en ce moment, le garçon. Flo, d'ailleurs. Donc, ben voilà, content de t'avoir.
Très heureux de ton invitation.
Alors, raconte-nous un petit peu, Flo, parce que moi, je te connais bien, mais nos auditeurs qui ne te connaissent pas, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu?
Alors, on va faire un petit résumé.
Allez, on fait un petit résumé. Ouais.
Donc, je m'appelle Florian Bernardi, je suis sarianais. Mes parents, pour revenir à la base, mes parents sont viticulteurs et passionnés tous les deux de sport auto. C'est aussi je suis né dans une famille de passionnés de sport auto et principalement de rallye. C'est aussi les organisateurs du rallye régional de Sarrian. J'ai été baigné depuis mon plus jeune âge dans le rallye.
On en profite pour faire un petit coucou à Jacques d'ailleurs.
J'ai copiloté mon père de 16 à 18 ans avant d'avoir le permis, parce que la petite spécificité du rallye, c'est qu'il faut avoir le permis pour débuter, contrairement au circuit. Donc de 16 à 18 ans, j'étais copilote de mon père, et à 18 ans, j'ai pris le volant. Pendant 2-3 saisons, j'ai évolué dans les rallyes de Coupe de France à l'échelle régionale. Et suite à des bons résultats, je suis arrivé à monter un programme pour partir en championnat de France junior. Donc dans lequel j'ai participé à trois saisons. J'ai eu de très bons résultats qui m'ont permis de continuer pendant 3 ans. J'ai passé, on va dire, 2 années en 2012 et 2013 très proche du titre. À chaque fois, je l'ai perdu sur la dernière course pour souvent des problèmes mécaniques ou des petites malchances avec des crevaisons. Donc ça m'a permis de rebondir pendant 2 ans encore en championnat de France, mais sous une autre marque, c'est-à-dire que c'était l'Opel qui organisait
la Coupe Adam, là, ouais.
Voilà, c'est ça.
Que tu avais remporté d'ailleurs.
Non, j'ai fini pareil, deuxième, donc une grosse performance aussi, parce qu'on a joué directement les premiers rôles dans la Coupe, dans la catégorie au-dessus par rapport au championnat de France junior. Donc on a pareil manqué de quelques détails, mais ça nous a fait grandir, ça nous a fait mûrir sur les, on va dire, les choix à adopter pendant les courses, et voilà. Et fin 2015, l'Opel Adam Cup s'arrête, et là en 2016 on a voulu essayer de partir en championnat d'Europe. Malheureusement, ça s'est On n'est pas arrivé à réunir le budget. Donc le problème, c'est que tous les championnats avaient attaqué. Et on a fait le choix de rouler en fin d'année. C'est là où, ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles,
j'avais fait le
rallye saharien avec la...
Avec une grosse auto.
Voilà, hein. Avec une des voitures, on va dire la division 2 du championnat du monde au niveau... au niveau de la voiture, pour donner une ordre d'idée.
Tu avais fait le VAR aussi avec.
Voilà, c'est ça. Et donc, une quatrième place au rallye régional de Sarrien, et donc qui est un rallye régional, et pour ma première fois en 4 roues motrices, et j'ai pu participer derrière à une manche championnat de France, le rallye du VAR avec la même voiture, où là, je signe une sixième place, qui était vraiment exceptionnelle, parce qu'il y avait plus de 20 voitures dans la catégorie, et on finit, voilà, sixième au général, derrière, on va dire, cinq élites du championnat de France, du championnat du monde.
Les Robert, voilà. Et compagnie, absolument.
Il y avait que des anciens pilotes professionnels ou des pilotes affûtés qui faisaient du championnat du monde, du championnat de France. Donc vraiment, vraiment une bonne expérience. Et par contre, derrière, on a voulu repartir sur un championnat complet. Donc on est reparti dans la catégorie au-dessous, qui est la R3, en 2017. Et là, on se bat face à un mythe du rallye français, ancien pilote professionnel qui est revenu, on va dire, se faire plaisir en championnat de France. Et on s'est bagarré toute l'année avec ce pilote Cédric Robert qui était pour moi un pilote qui est toujours un pilote qui me fait rêver, que je regardais, comme je disais, j'avais le best-of en DVD chez moi à la maison, et se battre contre un mec comme ça qui est en plus super super sympa et qui est de très bons conseils en dehors des spéciales, c'est juste super. Ça m'a permis d'énormément progresser,
d'autant que c'est lui qui avait mis la voiture au point, il me semble. Non
il avait pas mis, mais
en tout cas
Non, c'est Manu Guigou qui a surtout parti. Voilà. Mais il a roulé avec tout ce qu'il peut faire du rallye aujourd'hui. Il est passé de la WRC, il a commencé en groupe F, il a fait de la Cinquecento, de la Coupe Cinquecento avec des voitures qui faisaient moins de 70 chevaux. Donc c'est un pilote qui a vraiment tout fait. Et donc on finit premier junior en Clio Cup et deuxième derrière lui, en y ayant donné du fil à retordre toute l'année. Donc quand on a les félicitations d'un mec comme ça en disant il a fallu que j'aille me cracher dans les mains pour pas que tu remportes le titre, c'est vraiment quelque chose qui a peut-être plus de valeur qu'un titre, voilà.
Et même si malheureusement ça reste pas dans les annales.
Voilà, c'est ça. Bah c'est bête, mais la première course, on se bagarre contre lui en début de course à la seconde. Après, on fait une deuxième moitié de course un peu plus compliquée pour nous. Et j'ai eu plus de messages de soutien et de félicitations avec une deuxième place que des fois avec des années précédentes avec des victoires. Donc c'est pour dire voilà, à quel point ça donnait un étalon qui était intéressant.
Ouais, ben ça a permis de montrer à quel niveau tu pouvais rouler toi aussi finalement.
Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que dans mes formules de promotion précédente, il y avait beaucoup de jeunes comme moi, donc les gens ne savaient pas vraiment le niveau où on se situait, parce que certains progressent, d'autres stagnent. Donc c'est vrai que selon les années, il y a des surprises avec des nouveaux qui arrivent, des gens qui viennent de formules de promotion différentes, mais qui ne vont peut-être pas s'adapter à la voiture. Alors c'est vrai que des fois, il y a des années où de l'extérieur, bah, le niveau il est difficile à juger. Et là, avec une référence comme ça, ben, ça montre tout de suite où est le niveau, quoi.
Donc du coup, pour cette année, ben, tu as réussi à monter un projet.
Pour 2018.
Tu as réussi à monter un beau projet. Et,
on l'a pour 2018, ben, on est arrivé à repartir et à gagner ce trophée. Donc ça, c'est une comment dire.
Une grosse satisfaction.
Ouais,
déjà.
Une grosse satisfaction parce que.
Tu peux le dire, tu as pris un panard de fou toute la saison.
Bah ouais, voilà, parce que c'est vrai que. On va dire qu'on avait un peu la réputation du Pouli d'or. C'est vrai que maintenant, on connaît presque tout le monde dans le championnat de France avec les pilotes et je m'entends très bien avec tout le monde. Et c'est vrai que, bah, voilà, on me charriait parce que bah, souvent, je suis passé à côté, pas forcément de ma faute. Donc, on va dire que j'ai cumulé les malchances qui m'ont fait passer proche de la victoire d'un championnat. Et pour la petite histoire, souvent les gens me disaient mais Mais t'as jamais gagné dans la tête des gens, ils me voyaient tellement souvent gagner des courses.
C'est ce que c'est voilà. Ce qui est arrivé pour moi avec,
c'est ça, avec l'Opel Adam.
L'Opel Adam, parce j'étais persuadé que tu avais gagné la dernière année.
J'ai gagné énormément de courses. Pour les petites stats, j'arrivais à grosso modo gagner à être 2 fois sur 3 sur le podium et au moins 1 fois sur 3 gagner une course. Donc c'est des stats qui sont quand même sympa pour de la formule de promotion. Quand on sait que tous les pilotes, les meilleurs pilotes français, les jeunes, se battent dans ces formules de promotion, c'est-à-dire les formules monomarques organisées par les constructeurs. Donc voilà, gagner ça, c'est une satisfaction et c'est de se dire que voilà, c'est remercier tous les gens qui m'ont aidé depuis le début, qui ont cru en moi et voilà, c'est un gros ouf de soulagement.
Alors écoute, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir après sur ta saison 2018 et puis sur ce qui va arriver pour 2019.
OK.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour ici au studio à Carpentras pour, avec Florian Bernardi pour évoquer cette saison 2018, l'année de, on va dire, de la consécration. Enfin,
du sacre.
Jusque-là, du sacre, ouais, puisque tu étais titré même avant la fin de la saison. Hein, ça a été un plaisir de faire le dernier rallye avec... les lauriers sur le capot, ouais, absolument. On a vu les photos d'ailleurs.
Oui, c'est ça. On était fiers de montrer qu'on avait ce titre parce que la saison c'est très bien débuté parce qu'on gagne les deux premières courses. Derrière, on enchaîne avec une deuxième place et en fait lors de la quatrième course, on était en bagarre avec le seul potentiel à pouvoir nous empêcher d'être titrés. Et dans la dernière spéciale, il sort. Nous, on gagne. Et en fait, ça nous ramène le titre de rallye avant la fin. Donc, c'est vrai que là, ça a été une grosse satisfaction parce que le rallye du Mont-Blanc, je l'ai gagné 6 fois en 7 participations. Donc, être titré là-bas, c'était vraiment... j'ai à chaque fois de super souvenirs là-bas. Et d'arriver, on va dire, décontracté au rallye du Var, qui a nombreuses fois qui m'a empêché d'être titré, au moins à 4 reprises d'être titré. Donc ça, le Var n'a jamais été, on va dire, un super souvenir quand je jouais un championnat là-bas, parce qu'il y avait toujours énormément d'enjeux. Ça s'est jamais, même si pour la plupart du temps on a fini le rallye, mais on a toujours eu des galères. Et finir comme ça, c'est toujours un peu frustrant. Donc là, forcément, on va au Var, décontracté. En plus, on le gagne. Donc on gagne 4 courses sur 5 auxquelles on a participé. Et 5 podiums. Donc juste saison parfaite avec une petite touche que j'aime bien dire. C'est qu'on avait des points en meilleur performeur. C'est-à-dire que c'est le plus grand nombre de victoires de spéciales dans le rallye.
C'est aussi la régularité.
Voilà, et donc là, on a été 5 fois sur 5 meilleurs performeurs, donc ça prouve qu'on avait la pointe de vitesse, on avait aussi la gestion de course, parce qu'à la fin du rallye, pour la plupart du temps, on gagnait. Donc voilà, on a dominé ce championnat, et voilà, on a montré que, je pense, l'année d'apprentissage aux côtés de Cédric Robert l'année dernière, en 2017, la façon que lui abordait les courses, que lui gérait ses courses quand il avait de l'avance, quand il voyait qu'il était peut-être un peu moins bien sur certains week-ends parce qu'on avait gagné des rallyes contre lui, nous a fait mûrir en disant on peut gagner une saison sans gagner toutes les courses. Donc ça veut dire que si un week-end on est un peu moins bien, pas se forcer, prendre les points, rentrer à la maison avec une poignée de points qui servira forcément à la fin de l'année. Par rapport aux années précédentes où on essayait de forcer, peut-être prendre des risques, faire une erreur et le payer en fin d'année, il faut des fois savoir dire ce week-end on est un peu moins bien, on va prendre des points, ou si on a eu un souci pendant le rallye, pas essayer de forcer, de se mettre le couteau sous la gorge pour essayer de tout rattraper. Et forcément, dans la saison, on va dire, a été parfaite. J'ai changé d'équipe cette année. Je suis parti chez un team dans le nord de la France, mais qui a fait un super boulot, qui était super dévoué. Ils avaient une bonne expérience de la Clio, donc tout s'est bien goupillé. Je retrouvais un copilote, Victor Bellotto, avec qui j'avais roulé dans le passé, parce que suite à l'année 2017 où on a eu une grosse sortie avec mon copilote Xavier Castex, qui est avignonnais, se sentait pas prêt de remonter.
Tu m'étonnes, hein, quand on se souvient un petit peu des images là, du carton que vous prenez, ça monte haut. Ça...
On sort à plus de 160 km/h, donc lui, il n'a pas vu arriver, ça y a fait un petit blocage, et après, voilà, il y avait pas mal de choses. Il y avait ce problème où au Var, derrière, sur la dernière manche en 2017, ça ne va pas très bien, et donc à l'intersaison... Il a eu l'honnêteté de pas vouloir remonter à tout prix parce que ça aurait pu, il savait l'énergie que ça a demandé, l'investissement financier, de temps, de matériel, de toute une équipe, et il savait qu'il faut que tout soit en osmose dans la voiture pour que ça marche.
Flo, on va te couper une petite seconde, on reviendra sur le rallye après, mais on a Jérôme Alonso en direct. Jérôme?
Oui.
Salut Jérôme, bonjour. Comment tu vas ?
Ça va, merci.
Comment s'est passé ce week-end, Jérôme ? On rappelle, tu es l'entraîneur de Carpentras 13, le co-entraîneur, pardon, de Carpentras 13, avec ton coéquipier favori Gaël Talek. Et il y avait un gros match ce week-end du côté de Pia, c'est ça ?
Ouais, voilà, on avait un gros match à Pia où on était parti pour gagner. Malheureusement, on a fait que match nul. Donc, on est un peu, enfin, nous en tant qu'entraîneur, on est un peu déçus puisqu'on avait quand même bien maîtrisé notre sujet en première période avant de déjouer en seconde mi-temps et de se faire reprendre au score en toute fin de match.
qu'est-ce qui vous manque hier pour gagner ce match? Vous êtes prêt finalement?
Ben hier, ce qui nous a manqué, c'est surtout de la lucidité dans le money time, puisque malgré le fait qu'ils soient revenus à 34 partout, on a deux occasions de plier le match dans les deux dernières minutes où on a une pénalité, on demande aux joueurs de faire une tenue pour faire un drop et je ne sais pas ce qui repasse par la tête, ils font une autre option de jeu, on tombe le ballon au premier tenu. Et sur la dernière action, on sait que c'est fini, il reste 30 secondes, on demande à nos leaders de faire le drop. Là, pareil, ils essayent de marquer l'essai alors qu'on est 20 mètres face au poteau et on ne marque pas et on fait match nul. Donc je pense que c'est surtout un manque de lucidité et de maturité pour certains joueurs.
Ça fait râler parce qu'on se rappelle, on va rappeler à nos auditeurs ce qui s'était passé au match aller. Vous aviez eu contre cette même équipe de Pia, match perdu sur tapis vert alors que vous l'aviez gagné sur le terrain. Et puis il y avait eu ce fameux problème de licence, on se demande même si c'était un problème. Mais voilà, en tout cas, c'était vous aviez match perdu et tu voulais absolument venger ce résultat un peu pourri là du match aller, c'est ça? Tu avais dit que tu voulais aller récupérer les points, c'est ça?
C'est exactement ça. C'était l'objectif qu'on s'était donné. En première mi-temps, on a fait une première mi-temps quasi parfaite où on score sur nos actions et où on défend très bien. Donc, on mène logiquement 26-6 à la mi-temps. Et après, on avait bien prévenu les joueurs que c'était pas gagné parce qu'on sait comment ça se passe en pays catalan, ils allaient revenir avec le couteau entre les dents. C'est ce qui s'est passé. On a malgré tout bien résisté puisque on marque un essai qui est refusé en tout début de troisième mi-temps qui aurait pu faire basculer le match. Et ensuite, on mène quand même de 14 points à 11 minutes de la fin. Et c'est là où, avec Gaël, en tant que compétiteur, on est un peu énervé envers nos joueurs parce qu'on ne doit pas prendre trois essais en 11 minutes comme ça quand on sait que la victoire est très importante, surtout que ce n'est pas des essais construits, c'est trois essais sur trois erreurs de notre part. Donc, des erreurs en ayant le ballon. Donc, on fait une mauvaise passe, on prend une interception de 90 mètres. Ensuite, on fait un mauvais jeu au pied. Et pareil, on reprend un essai de 60 mètres. Et le dernier, c'est nous qu'on prend deux pénalités successives alors qu'ils sont dans leur camp. On les ramène dans notre camp et ils marquent. Donc, c'est vraiment rageant. Ouais.
Jérôme, ce manque de lucidité, là, est-ce qu'il n'est pas dû à la faiblesse de ton effectif, presque un peu à la faiblesse de ton banc ou vous êtes vous leur tirez un petit peu dessus aux joueurs et au bout d'un moment, c'est un peu moins lucide, un peu moins... Ça maîtrise un peu moins le match que ça devrait, non?
Oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui, ça peut venir de là. Après,
une forme de décompression aussi par rapport au match de la semaine dernière qui avait été un gros coup là contre Toulon, me semble-t-il.
Ouais, c'est ça. Non, c'est pas une décompression. Je pense que les joueurs, c'est là où il faut qu'on travaille, c'est que dans les moments clés, on perd trop notre lucidité. Et c'est bien dommage parce que après quand on n'est pas en danger on fait une super première mi-temps, on fait même une bonne seconde mi-temps malgré qu'on fait beaucoup plus de fautes que dans la première, mais non, c'est un manque de gestion dans cette fin de match qui il faut le dire, enfin pour moi, qui est catastrophique, même si certaines personnes au club sont quand même contents d'avoir ramené deux points, pour moi c'est un point de perdu.
Justement, Jérôme, il y a un point positif quand même, c'est que tu es toujours invaincu officiellement, enfin officieusement non, mais sur le terrain tu es toujours invaincu. On est au début des matchs retour, ton groupe est toujours invaincu sur le pré, on va dire. Tu t'attendais peut-être pas à ça non plus en début de saison quand même.
Exactement. C'est sûr que si on nous avait dit qu'on arriverait en fin janvier invaincu, on aurait signé dès demain. Maintenant, on s'aperçoit qu'on a un groupe qui a un caractère énorme. Quoi. C'est des joueurs, ils lâchent jamais rien. C'est vraiment un plaisir de les entraîner. Et c'est pour ça que si on arrivait à gommer justement nos petites imperfections, je suis sûr qu'on pourrait viser beaucoup plus haut et pourquoi pas viser la finale. Parce que franchement, on s'aperçoit qu'à Pia, il n'y a que Vao qui est allé gagner d'un point et Ville-Gaillen qui a fait match nul. Mais nous, comme je l'ai dit, ça s'aborde nous le match, quoi. C'est pas Pia qui a fait match nul, c'est nous qu'on a offert le match nul. Donc c'est sûr que si on arrive à régler ces petits problèmes, si on récupère Jimmy, parce que bon, il nous manque Jimmy Havé, qui est quand même une pièce maîtresse et qui, je pense, dans le jeu au pied, est un joueur primordial dans notre groupe. Donc je pense qu'avec des petits joueurs comme ça, la rentrée de Rémi Fontana sur les derniers matchs, ça peut nous apporter le manque de lucidité qu'on a dans ces moments-là.
T'en es où, on va, maintenant qu'on a parlé des choses sympas, là, vous en êtes où de l'histoire du match de Villeneuve?
Ben, le match de Villeneuve, demain soir à 20h à Carcassonne, Maxime Pala, le manager, avec Bruno Boubi, un des présidents, et M. Audavran, notre avocat, sont convoqués à 20h par la commission d'appel. Mmh. Donc ils vont aller défendre notre dossier qui est bien défendable, disons. Et après, on verra ce qui va en sortir de cette commission. Et bon, comme on l'avait dit bien avant, si on n'est pas satisfait du résultat, ben on ira au CNOSF. Et si on n'est pas satisfait au CNOSF, on ira au TAS parce que bon, avec tous les acteurs du rugby avec qui on en parle de cette histoire, tout le monde trouve scandaleux les sanctions qui nous ont été affligées et surtout le match perdu avec 0 point, alors qu'on n'est en aucun cas fautif sur les événements qui se sont passés.
Valérie.
Oui, je voulais juste te poser une question, Jérôme, c'est concernant le classement général, parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement combien vous êtes, parce que au niveau de la fédération, vous êtes quatrième, au niveau de la presse, vous êtes deuxième, donc nulle part ne figure ton match perdu au niveau de la fédération, ouais. Justement.
Oui, c'est ça. Non, donc là, pour l'instant, au niveau le classement normal, donc disons en ayant nos 2 matchs perdus sur tapis vert, on est effectivement 4e, mais avec 2 matchs de retard.
D'accord.
Mais bon, si on nous redonne notre match, si on récupère les 3 points de Villeneuve, puisqu'il n'y a que cela qu'on peut récupérer, on ne récupérera pas les 3 points de Pia, on se retrouverait 3e à 1 point de Villegayen, mais toujours avec 2 matchs de retard. Donc ça nous laisse quand même présager une bonne fin de saison.
D'accord, parce que je voulais justement éclaircir ce petit problème.
Avant de te laisser, Jérôme, un dernier mot sur la Coupe de France, il y a eu le tirage. Vous vous déplacez du côté de Lyon-Villeurbanne, plutôt un bon tirage, vous auriez pu choper une équipe d'élite et vous faire sortir, alors que Lyon-Villeurbanne, c'est largement jouable.
Oui, c'est un bon tirage. Bon, le souci, c'est ce qu'on dit depuis un petit moment, c'est qu'on a un effectif qui est...
Et vous n'avez pas pouvoir tout jouer.
Et là, bon, à la limite, tu vois, j'aurais préféré quand même prendre un club d'élite 1 chez nous et sortir la tête haute en me consacrant ensuite au championnat. Là, le souci en plus, c'est qu'on va les jouer en coupe et que la semaine après, on y revient en championnat.
D'accord.
Donc, le problème, c'est que, bon, comme on est compétiteur, on va aller en...
Gagner les deux.
Pour gagner, mais est-ce qu'on aura les ressources mentales et physiques pour y retourner la semaine après et gagner un championnat? Donc, c'est problématique maintenant. Voilà, c'est, comme tu as dit, c'est un club qui est à notre portée. Donc, si on peut gagner, ben, on ne va pas s'en priver. On fera un quart après à domicile, puisque je pense qu'il restera. Non, il restera encore une équipe d'élite 2, puisqu'il y a eu le gagner une contre-entraigue.
Ouais.
Donc, qui sait, pourquoi pas faire une.
un quart à la maison contre-entraigue, ce serait sympa,
voilà,
non
Ouais, un quart de maison contre Trek, ouais, j'ai signé des domaines de succès, je pense que Julien signerait aussi,
ouais. Bien sûr, forcément.
Je pense que Julien signerait aussi.
Ouais, bah écoute, j'imagine que Julien, il doit avoir à peu près les mêmes idées que toi, d'ailleurs, je pense.
Ouais.
Vous avez même dû en parler, non, j'imagine? Pas encore?
Non, là, il y a un petit moment qu'on s'est pas mis au téléphone, hein. D'ailleurs, il faut que je l'appelle parce qu'il m'a laissé un message et que je ne l'ai pas encore appelé. Mais bon, je pense qu'Entraigue aussi...
Julien, c'est Julien Scaramuza, l'entraîneur d'Entraigue, pour ceux qui ont...
C'est ça. Non, je pense que Julien, actuellement, il doit avoir d'autres soucis, puisque bon, hier, malheureusement, ils ont perdu à la dernière minute. Et je pense que lui, il vise plus quand même aussi une 6e place en championnat qu'un bon parcours en Coupe de France. Et c'est tout ce que je leur souhaite, c'est d'être dans les 6 qualifiés.
Bah écoute, Jérôme, merci pour ta disponibilité encore une fois. Et puis, à très bientôt. On essaie de venir vous voir très vite.
Pas de problème, ça marche.
Merci. Salut Jérôme, à bientôt, merci.
Au revoir.
Allez, on va continuer avec une petite page musicale et puis on récupère après notre ami Flo Bernardi. RTV FM. Are you drunk or not? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Parlons sport sur RTV FM.
Allez, on est de retour ici au studio avec Florian Bernardi, Valérie et puis Flo à la technique. On était sur ta saison 2018, Flo, avec, avec cette consécration, hein, ce titre, j'imagine, cette belle fête. Et puis surtout, une vraie reconnaissance de la part du paddock et des observateurs finalement.
Oui, c'est vrai que tout le monde était conscient que j'étais capable depuis quelques années de gagner un titre en formule de promotion. Donc, je rappelle un petit peu ce que c'est les formules de promotion. C'est les championnats organisés par les constructeurs où en fait le principe c'est qu'on a tous des voitures identiques et c'est vraiment l'équipage, l'équipe technique avec les choix techniques et les choix pneumatiques, etc. qui font la différence. Donc, on va dire que c'est là où tous les jeunes pilotes viennent se confronter pour accéder au plus haut niveau. Et on avait gagné dans le passé pas mal de victoires, mais jamais ce sacre. Et c'est vrai que tout le monde était plutôt content pour moi en disant « ça fait longtemps que tu méritais cette victoire et cette victoire de championnat. Et donc, cette année, on l'a fait et ça a été vraiment un soulagement. On va dire que depuis 2008 que je roule en régional, ben voilà, c'est moi quand je regardais les pilotes, les podiums de formule de promotion, c'est toujours des trucs qui m'ont fait rêver, qui étaient au départ inaccessibles financièrement parlant, et petit à petit, à force de construire, on va dire pierre après pierre, le projet, de m'entourer de partenaires, de gens qui me soutiennent, des gens qui m'ont aidé, voilà, certains teams qui m'ont vu rouler aussi, qui se sont dit on a envie de jouer devant, d'avoir Bernardi dans le team, ça peut nous servir à ça. Donc voilà, toutes ces choses sont faites qu'en 2018, ça a été la consécration.
Valérie.
Je vois en 2018 sur ta page Facebook, 2018,
tu es espionné, Flo, elle a tout sur toi.
C'est 30 rallyes, 79 départs, 69 arrivées.
Ça, c'est depuis le début de l'année. Voilà. Depuis le début de ma carrière.
Ah, d'accord, ok. Parce que je voulais savoir, parce que quand je vois ça, je dis, attends, qu'est-ce qu'un rallye ? Qu'est-ce qu'un rallye ? Pour quelqu'un de novice au niveau de la radio, qu'est-ce qu'un rallye ?
Ouais, j'avais voulu faire ces stats parce que j'estime que ma réussite de 2018, elle ne s'est pas jouée sur 2018, mais elle s'est jouée depuis que j'ai attaqué le rallye. C'est-à-dire qu'il y a peu de pilotes qui démarrent comme moi dans la plus petite catégorie de la Coupe de France, qui arrive à, on va dire, avec la labeur d'arriver à construire pour aller jusqu'en formule de promotion. Et c'est pour ça que j'ai voulu retracer toutes ces victoires, ces abandons, enfin toutes ces stats, parce que pour moi c'est tout ça. Après le rallye, on va dire que le rallye au niveau du championnat de France, c'est on part grosso modo une petite semaine. On va partir le mardi pour être arrivé sur la course le mardi soir. Mercredi, jeudi matin, ça va être les reconnaissances. Donc les reconnaissances, c'est là où on passe avec notre copilote reconnaître le parcours, où on va prendre les fameuses notes dites par le copilote qu'on peut entendre par exemple dans les caméras embarquées, qui va tout simplement pendant la course nous décrire la route. Et ensuite, donc le jeudi après-midi, il va y avoir tout ce qui est vérification technique, administrative. On va dire c'est la journée de des conférences de presse, etc. Donc c'est un peu la journée, on va dire, off sportivement. Mais nous, ça va nous permettre de visionner les caméras embarquées qu'on a fait pendant les reconnaissances. Donc ça nous permet de valider nos notes aussi. Donc ça va être, on va dire, la demi-journée.
Et puis ton nouveau statut maintenant va t'imposer d'aller un peu en conf de presse là, non ?
Oui, ça fait déjà, on va dire, quelques années depuis quasiment le début, parce que en fait j'ai changé de statut, c'est-à-dire qu'au départ c'était le petit qui en Twingo qui arrivait et qui se battait devant alors qu'on savait pas où il venait, donc on l'invitait en conférence de presse. Et maintenant j'ai le statut de favori, donc depuis quelques années le statut de favori me faisait que j'étais dans ceux qu'on invitait pour ou on va dire d'animateur du championnat qu'on a amené dans la conférence de presse. Donc voilà, j'ai toujours c'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on fait. Et ensuite, après, ça fait deux jours de course. Donc, vendredi, le premier jour de course, samedi, le deuxième, samedi soir, fin du rallye. Et dimanche, on rentre parce que c'est jamais la plus proche, c'est le rallye du Var à Sainte-Maxime. Mais sinon, on monte jusqu'au Touquet. Donc, voilà.
Donc, un rallye, c'est toujours deux manches.
C'est deux jours, mais le classement final est à la fin de la deuxième journée.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à la fin de la première journée, on n'a rien gagné du tout. Si on abandonne, ce qui m'est arrivé, je le raconterai peut-être après sur une manche championnat d'Europe, c'est que j'ai abandonné la dernière spéciale. Donc généralement, les rallyes sont segmentés à peu près entre 4 et 6 spéciales par jour. Donc en fait, c'est le cumul des temps de ces 12 spéciales dans le week-end qui fait un classement général, et le classement est fait à la fin du deuxième jour.
Voilà, parce que bon, c'est vrai que on ne sait pas comment ça se passe exactement.
Ouais,
non,
mais
c'est vrai,
c'est
d'éclaircir,
vrai
c'est pas mal.
Voilà,
donc. Juste un petit mot, j'ai des remarques d'auditeurs et d'auditrices là sur mon Facebook. Je suis désolé pour si vous m'entendez tousser, je suis malade. mea culpa. Allez, on revient au rallye, Flo.
Ouais, j'ai eu la chance cette année de pouvoir, donc grâce à mes partenaires principalement, C'est un souhait que je voulais, c'est passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au championnat d'Europe. Et cette année, j'ai pu m'engager sur deux manches de championnat d'Europe. J'ai pas choisi les pires. On a allé faire un rallye au mois
Madère,
de mai,
non
au mois de mai, aux Canaries.
Aux Canaries, à Madère.
Voilà, juste à côté de Madère. Mais c'était une manche championnat d'Europe. On s'est engagé sur l'ERC, le championnat d'Europe. Et l'ERC 3, c'est le championnat d'euromotrice de l'ERC 3. Enfin, de l'ERC. Et en fait, c'était une grande découverte pour nous parce qu'on découvrait absolument déjà la région, le fonctionnement, c'est-à-dire que seulement en championnat de France, c'était 3 passages de reconnaissance. En championnat d'Europe, c'était que 2. Donc, une philosophie complètement différente au niveau de la prise de notes, c'est-à-dire que le premier coup, on écrit les notes, c'est-à-dire je dicte les notes au copilote. Et le deuxième coup, c'est lui qui me les récite. Et donc après, si moi je fais des modifications, eh bien on peut pas les en deux passages, on peut pas les confirmer. Donc avec notre troisième passage, on avait l'habitude de confirmer, de rien changer le troisième passage pour arriver en course avec des notes qui pour nous étaient parfaites. Alors que là, le deuxième, il nous manquait cette petite confirmation et le troisième passage, on allait le faire en course. Donc ça a été un gros suspense pour savoir si on allait arriver à faire cette petite changement. Et en fait, on s'en est
plutôt vite adapté
parce que
il y a une victoire sur le premier, me semble, non?
C'est ça. Ouais. Première rallye internationale, première victoire de la catégorie, donc c'est vraiment...
Ça va plus vite en championnat d'Europe qu'en championnat de France. Qu'est-ce que c'est qui change? Alors, hormis le problème des rocos, on le sait, c'est plus réduit, mais est-ce que l'environnement, il y a plus de stress, plus de pression? Est-ce que aussi le niveau est plus haut? Ça va plus vite? Les pilotes vont plus vite?
Alors, je pense que...
Ou les autos sont plus mieux préparées.
C'est différent parce que déjà, en deux-roues-motrices, en championnat d'Europe, ça regroupe deux catégories différentes du championnat de France. C'est-à-dire que, pour les habitués, ça va être les R3 et les R2. Donc, grosso modo, c'est les R2, c'est des 1,6 litres. Mais qui sont plus légères en poids. Et les R3, qui sont comme ma Clio, c'est ou des 2 litres ou des 1600 turbo, donc qui sont plus performantes, plus puissantes, mais qui sont plus lourdes. Donc en fait, en regroupant ces deux catégories, ça crée un piment en plus parce que selon le profil des routes, une voiture ou l'autre va être plus adaptée. Donc déjà, ça crée une grosse différence parce que il faut arriver à, entre guillemets, mettre sa fierté dans sa poche sur certaines spéciales qui vont être plus adaptées à certains véhicules. Et d'autres, il va falloir faire l'écart parce qu'on sait que celle-là, elle est entre guillemets pour nous. Et donc là, il va falloir taper fort. Après, dans ma catégorie de deux roues motrices, en championnat d'Europe, il y a beaucoup plus de jeunes, de plus jeunes. C'est-à-dire que c'est des gens, je crois qu'on avait 12 ou 14 nationalités différentes aux Açores. Mais c'est tous des gens qui visent le haut niveau.
Donc ils viennent là se préparer.
Voilà.
Ils évitent clairement de passer les formules de promo.
C'est ça. Et il y en a, pour la plupart, ne travaillent pas.
Ils sont déjà pros, quoi.
Voilà. Ils sont, même s'ils sont pas payés pour ça, ils ont une préparation très professionnelle. Donc on a moins de pilotes qui connaissent par cœur les routes parce qu'ils ont fait 50 fois, j'exagère, mais 10 fois le championnat, comme on peut avoir en championnat de France, ou des gens qui connaissent, comme moi aujourd'hui, les manches championnat de France.
Oui, limer, bien sûr.
Certains rallyes que j'ai participé 8 fois, forcément, les routes, même si on ne prend pas toujours les mêmes tracés, c'est des routes et des profils de routes qui sont souvent similaires. Alors que là, on a plus ce côté découverte, apprentissage rapide, et être tout de suite rapide et s'adapter aux nouveautés.
Puis il y a des mecs qui vont super vite en championnat d'Europe parce que il me semble que cette saison il y avait encore des mecs comme Kubica et compagnie là qui ont roulé à haut niveau et qui redescendent faire plaisir.
C'est sûr qu'en R5, dans la catégorie Rennes, il y a un peu tous les profils. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes qui financièrement ne peuvent pas se permettre d'aller en mondial. Il y a des pilotes qui vont faire quelques courses en Europe pour se préparer à des manches de mondial. Il y a des gentlemen drivers, il y a des anciens pilotes. Il y a un peu de tout. On retrouve un peu un mix de plein de choses, ce qui est pas mal. Pour ce qui est de ma catégorie, il y avait quand même des constructeurs engagés officiellement. Donc Opel Motorsport Allemagne avait deux voitures engagées officiellement. Donc être derrière un petit Français qui arrive comme ça, les embêter sur une manche alors qu'eux jouent le championnat, ça ne leur a pas fait super plaisir. Après, il y a des fédérations comme les fédérations tchèques où ils envoient des pilotes qui sont payé, enfin, où tout est payé par la fédération. Donc voilà, c'est vrai, ils ont vraiment des statuts différents. Donc on ne nous attendait pas parce que personne ne nous connaissait en championnat d'Europe. Ça a fait un peu la même philosophie que quand on a débarqué en championnat de France. On a débarqué, on était dans le coup. Là, ça l'a fait. Et donc on est arrivé à s'engager sur la manche italienne à Rome. Au mois de juillet. Là, on a eu quelques galères techniques. On a cassé un amortisseur. Donc ça arrive, c'est de la mécanique. Donc ça nous a fait perdre pas mal de temps. On a fait une remontada. On est passé de la 8e à la 2e place en une demi-journée de course. Donc malheureusement, dans la dernière spéciale, on pouvait remonter sur le premier. On a fait le choix de rien lâcher. Le premier avait ordre de Opel Motorsport de rien lâcher aussi pour ne pas se faire remonter. Parce que lui jouait le titre d'euromotrice à la fin de l'année. Donc il fallait qu'ils engrangent un maximum de points. Malheureusement, un manque de lucidité, la fatigue, la chaleur.
C'est sorti, hein.
Ouais, je sors, j'entends pas une note et on vient heurter le rocher à quelques kilomètres de l'arrivée finale. Donc voilà, ça nous a appris aussi des choses, c'est-à-dire que on a vu les difficultés qu'on a pas eu en championnat de France, c'est-à-dire tout ce qui est chaleur, contraintes physiques, beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de travailler en intersaison, c'est-à-dire que là on a des contraintes différentes parce qu'on s'est mis beaucoup de pression, beaucoup de stress avec les problèmes mécaniques. Donc quand on découvre les choses aussi, ça demande beaucoup plus de concentration. Donc ça, la concentration entraîne de la fatigue. Et voilà, on a essayé de tirer le positif parce qu'on a vu qu'on était performant encore là-bas quand on découvrait un rallye. Par contre, voilà, notre erreur, il faut que j'en tire les conséquences, c'est-à-dire plus de préparation physique parce que les rallyes dans des pays comme ça sont plus contraignants physiquement avec la chaleur.
Justement, tu te prépares physiquement. Comment tu... Parce que bon, tu as un métier qui te prépare au quotidien.
Ouais, voilà.
On rappelle, viticulteur, c'est
ça.
Mais est-ce que du coup, pour rouler à un niveau plus élevé, tu changes ta façon de te préparer. Tu as pris un préparateur physique même peut-être. En fait, je sais pas comment tu gères ça. Tu vas le faire en tout cas.
Ouais, clairement là, je me suis rapproché d'un préparateur physique pour essayer de combler ces manques parce qu'aujourd'hui, je surfais un petit peu sur ma condition physique. J'ai été judoka, j'ai dû arrêter par manque de temps, mais voilà, j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de presque 22-23 ans le judo à un niveau correct. Donc j'avais, si tu veux, cette condition physique nécessaire, suffisante jusque-là. Le problème, c'est qu'on va dire que les voitures demandent de plus en plus d'exigences. Ça va de plus en plus vite. Donc
du coup,
concentration,
tu tapes plus dans les réserves,
voilà,
et ça manque de lucidité.
C'est ça. Et c'est clairement le manque de lucidité. Peut-être d'avoir été un peu trop confiant au niveau de l'hydratation, de ces genres, voilà, c'est clairement ça. Je pense que c'est un peu le cumul de plein de choses, même au niveau de la course. Il faut que j'arrive à, on y est allé avec des moyens qui étaient très réduits, on le savait. C'était un choix. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire une manche de championnat de France derrière, même si je savais que j'étais titré, donc c'était pas grave que je manque une course. Mais le problème, c'est que ça engendre un stress supplémentaire parce qu'on était un petit effectif, donc je fais des choses que je devrais déléguer. Donc ça met une pression, du stress, à réfléchir tout le temps. Quand ça se passe pas bien au niveau là, on a quand même un membre de l'équipe qui est venu en voiture jusqu'à Turin avec des amortisseurs dans la valise pour nous amener les amortisseurs de course. Donc tout ça, il a fallu le trouver. Donc il est arrivé deux heures avant le départ du rallye. Donc
ça stresse pas du tout, ça.
Voilà.
Justement, je voulais en revenir. Tout à l'heure, tu parlais de la République tchèque, de ceci, cela, qui a été les coureurs, ou les pilotes plutôt, étaient aidés par leur fédération. Mais toi, t'es pas aidé apparemment.
Non, malheureusement.
Pas aidé, mais tu as fini, oui.
Mais attends, il n'est pas aidé par la fédération dans le sens où il est quand même. Bon, là, il a un titre. Oui. Il a quand même fait des podiums l'année dernière. C'est quand même Il y a quand même, je veux dire, alors là, un champion, là, même là, si là, tu as été là, un poulidor,
tu,
ouais.
tu as mis le doigt là où là, ça fait mal.
Là, tu touches.
Non, mais c'est ça qui n'est pas normal. Encore, on en revient toujours pareil. Tu es quand même, on va dire, parmi l'élite française.
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Mais il n'y a pas d'aide.
Il y avait un projet il y a quelques années là et. Je crois qu'ils avaient sorti un mec, c'était Vouilloz, me semble-t-il.
Oui, dans les années 2000. Voilà.
Ouais, c'est
là,
ça.
Là, ma problématique.
Il y a une figure.
Ouais, voilà. La problématique que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans. On va dire que la carrière professionnelle.
Sorti des radars.
Voilà. Pour accéder au niveau, je l'ai raté. J'ai manqué le coche. J'ai manqué. À des moments, il aurait fallu que je puisse passer à l'international, peut-être seulement après 2 ans de formule de promotion, il aurait fallu que, à l'âge de 22, 23 ans, il aurait fallu que je passe au cap supplémentaire. Le problème, c'est que financièrement, j'ai pas pu. Il aurait fallu que je sois titré champion de France junior les années où on va dire que le titre m'a échappé. Et en fait, tout ça a fait que j'ai pas réussi à monter dans le train, si on peut dire ça, du haut niveau. Et aujourd'hui, clairement, la fédération, je suis pas seul, hein, je suis pas le seul pilote à faire des performances et j'ai pas jamais été dans le cursus, ce qu'ils appellent le cursus, la pyramide au niveau, c'est-à-dire rallye jeune et comment dire.
Oui, mais tu as toujours été un poulidor quand même.
Oui,
d'accord. Mais malgré tout, le poulidor, il a été deuxième.
Oui,
un
oui,
poulidor,
oui.
C'est deuxième.
Et oui, mais c'est pas premier.
C'est ça.
Non, mais c'est pas le premier, je suis d'accord
c'est,
avec
c'est,
toi.
C'est,
mais...
c'est très élitiste le rallye.
Mais tu peux pas aider. Alors, si tu n'aides pas un deuxième pour tenter d'être premier, je veux dire, c'est un peu truqué.
On revient juste après la musique, s'il vous plaît.
RTVFM, première radio locale associative de Carpentras.
Free. afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no.
Ghostbusters!
When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour au studio et c'est pour la dernière partie avec Flo Bernardi. On a évoqué ta saison, ton titre et tout ce qui va avec le championnat d'Europe. Parle-nous un petit peu justement, donne-nous un petit peu les grandes lignes, parce que tu es titré, j'imagine que tu as dû attirer un petit peu les regards. Est-ce que tu as eu des contacts avec des écuries plus ou moins officielles qui auraient voulu te faire rouler à un niveau différent ou dans d'autres types de compétitions?
Alors, depuis le mois de septembre, début septembre, on a eu le titre. On s'est déjà tourné vers 2019. On a essayé de trouver tout ce qui était, on va dire, c'est toujours un équilibre entre ce qui est financièrement possible et sportivement intéressant. Voilà, c'est toujours la bascule à trouver avec ces deux paramètres qui sont souvent opposés, ce qui est forcément sportivement intéressant et très cher. Et quand on fait des championnats un peu moins médiatisés, ça coûte moins cher, mais on s'y retrouve pas forcément. Donc voilà, il faut arriver à trouver un équilibre. On a été abroché par des teams pour rouler, on va dire, dans la catégorie Riren en championnat de France. En R5, on a eu des envies d'international. Donc, avec nos deux expériences à l'international, ça donne vraiment envie de découvrir autre chose parce que on progresse beaucoup. À mon avis, on progresse beaucoup plus vite quand on découvre des rallyes. C'est un peu pareil dans toutes les disciplines. Quand on va voir des choses nouvelles, forcément, on en tire plus d'enseignement. Et j'estime que même à 30 ans, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et je pense qu'on apprend à chaque fois de nouvelles choses. Donc voilà, j'ai peu d'expérience sur la... Parce que moi, c'est des rallyes goudron. J'ai peu d'expérience sur la terre. Donc voilà, c'était une envie aussi de découvrir la terre. Donc on a beaucoup réfléchi, beaucoup d'opportunités. Mais bon, dans notre sport, il n'y a rien qui est gratuit, si on peut dire ça comme ça, même parce que les teams sont à chaque fois des entreprises. Donc même s'ils font un effort pour avoir des top pilotes,
ils ont besoin quand même que tu amènes une partie du budget.
Voilà, il y a une besoin d'amener du budget. Donc voilà, c'est à chaque fois une négociation entre le projet sportif et ce qu'on doit amener financièrement. C'est un peu, à mon niveau, c'est un peu la même problématique qu'on voit en F1. On voit des pilotes, quand on les voit qui sont dans le classement, qui font des beaux grands prix et que derrière, ils ne trouvent pas de volant. C'est que généralement, ils ne sont pas arrivés avec les partenaires suffisants qu'avait besoin l'écurie pour rouler. Nous, c'est un petit peu pareil à des échelles qui sont différentes. Donc voilà, après, on a pas mal avancé, on n'a rien de défini encore. J'espère que début mars, on pourra établir un programme complet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se profile, c'est plutôt de l'international avec une deux roues motrices. Donc voilà, aujourd'hui on est dans la période qui n'est pas le plus intéressant de la saison. C'est la recherche de partenaires avec des gens qui sont plus souvent en local, avec des entreprises en local ou des spécialistes dans le sport auto, comme des équipementiers, etc.
Ouais, à l'Opneu, j'ai vu.
Voilà, j'ai une société... Ma société qui est, on va dire, la plus connue dans le grand public, c'est Allo Pneus. Après, j'ai des industriels en local. Et voilà, donc...
On en parlait en off, là, de ça, mais c'est compliqué de trouver des budgets aujourd'hui pour faire de la course automobile, parce que tu disais, c'est pas très bankable, en fait.
C'est ça.
La course auto, ça pollue, c'est...
Alors voilà, c'est pas d'actualité. C'est voilà. Une image. Je pense qu'on paye notre image, même si aujourd'hui, je pense que il faut pas oublier que toutes les évolutions qui sont faites sur l'automobile, comme dans la plupart des disciplines, se font grâce à la compétition. On le voit dans toutes les disciplines. Je dirais même pour la course à pied, hein, avec les chaussures, les baskets, c'est la compétition, le haut niveau qui fait faire de la progression à ce niveau-là. Et on le voit, c'est pareil dans toutes les disciplines. Donc voilà, sauf que on va dire que ce qui est mis en lumière, c'est ce qui consomme de l'énergie, contrairement à d'autres disciplines. Et c'est vrai qu'on a un peu ce côté pas très vendeur et auquel où je me bats parce qu'aujourd'hui je pense que si on veut faire évoluer la mobilité, la compétition, quelle qu'elle soit, elle est intéressante et on ne pourra pas venir, j'en suis persuadé. Moi, je suis ingénieur de formation automobile, donc je sais que le tout électrique, ça sera juste pas possible. Donc des solutions avec du bio, de la biocarburant, des choses comme ça, ça peut être des choses qui peuvent être applicables en sport auto. Et je pense que voilà, il y a des choses pour trouver des partenaires. Moi, je mets l'accent particulièrement sur mes partenaires en créant un club des partenaires où derrière ils vont
parlons-nous un petit peu
voilà,
de ça ouais.
Ils vont, on va dire que c'est des choses que j'ai mis en place. J'ai fait le parallèle avec des clubs, par exemple ce qu'on peut retrouver en club de foot ou club de rugby avec une espèce de club des partenaires. Mais moi je l'ai fait à mon échelle. J'organise des soirées souvent dans les entreprises de mes partenaires pour faire découvrir à d'autres partenaires l'univers de mon partenaire. Derrière, ça peut créer du business, hein, parce que faut dire que les partenaires, s'ils veulent s'y retrouver pour m'aider, ils sont aussi là pour faire du business et de la communication. Donc rencontrer des gens et augmenter le réseau, moi j'avais vu dans le passé que les gens se connaissaient pas forcément entre eux, et je trouvais ça dommage parce que des gens qui peuvent travailler ensemble, forcément si c'est moi qui les ai fait rencontrer, forcément tout le monde en tirera du positif.
Combien de rallyes par an tu fais à peu près, ou de courses quoi?
Voilà, ben
ça
là,
fait 5-6 cette
ouais,
année.
Voilà. Cette année j'en ai fait 7 parce que j'ai fait mes 5 manches de championnat de France et mes 2 manches d'Europe. Grosso modo par an c'est la moyenne. Après on va dire que le championnat de France complet c'est 9 courses, mais le trophée Clio R3T c'était seulement 6 courses. Pour des raisons de budget. C'est aussi pour ça que pour moi, le championnat de France, c'est compliqué. C'est compliqué de passer sur la catégorie au-dessus. C'est-à-dire que la catégorie au-dessus, ça veut dire participer aux 9 courses. Ça veut dire qu'à chaque fois, payer sur un championnat 9 fois.
Oui, parce qu'on rappelle aux auditeurs quand même que tu ne tires aucun revenu de ta discipline.
Voilà,
hein.
C'est ça.
Donc voilà, que tu fais ça. Voilà, grâce, on va dire, à des sponsors,
c'est ça.
On peut appeler.
Partenaires et primes. Voilà,
et que toi, tu travailles à côté, quoi.
Voilà, c'est ça.
Pour survivre.
On va aussi dire qu'il a réglé le problème des frais d'engagement en gagnant avant la fin du championnat et du trophée. Comme ça, il n'a pas besoin de finir, tu vois. Voilà. Il économise ça.
Il économise.
C'est ça. Non, mais voilà. Mais bon, c'est toute une gestion quand même. Hein,
oui,
parce que
voilà,
être de ta poche comme ça, je parle des années précédentes, puisque cette année, tu as fait, on va dire, une année blanche.
C'est ça.
Hein, mais sur
ça
les
fait années, quelques années où j'arrive à équilibrer. En fait, c'est un peu j'ai une association, loi 1901, avec une équipe derrière. Je suis pas tout seul parce que ça serait ingérable de gérer tout ça tout seul. J'ai un trésorier, on va dire un retraité qui me fait
Jacques
beaucoup.
Bernardi, non ?
Non. Jean-Michel Véret, c'est un Lyonnais que je connais depuis des années et qui lui est passionné de sport auto. Pour la petite histoire, quand j'étais mécano. Parce que j'ai une formation de mécanicien après d'ingénieur. Quand j'étais mécano, j'étais son mécano quand lui était copilote. Et on a sympathisé depuis là. Et aujourd'hui, voilà, il me fait toute ma comptabilité, toute ma trésorerie. Il me donne un coup de main pour gérer mon club des partenaires. J'ai une agence de com qui me gère toute ma communication. J'ai mon copilote qui est un copilote qui fait que ça. C'est-à-dire qu'il gère la logistique. Et que lui, c'est son boulot, il travaille pour les teams, il travaille pas que pour moi, mais il travaille pour les teams et voilà. Mais moi aujourd'hui, c'est une passion. Aujourd'hui, dans le monde de pilotes, on va dire de pilotes professionnels payés par le constructeur, ils doivent être en rallye, ils doivent être 5 peut-être, sans amener de budget. Et après, je pense que on peut parler d'une vingtaine ou une trentaine de pilotes qui sont ce qu'on appelle semi-professionnels, c'est-à-dire qui ne font que ça, mais qui trouvent des budgets privés. Voilà, donc pour donner une ordre de grandeur, donc moi j'en suis pas encore là. C'est, on va dire, c'est vers la deuxième option que je me tourne le plus, c'est-à-dire créer une dynamique autour de moi avec des partenaires privés. Et voilà, c'est ce que j'espère arriver à plus haut niveau.
Dans l'immédiat, Flo, c'est départ très vite pour le Rallye Monte Carlo.
C'est ça.
Tu ouvres pour la troisième ou quatrième année consécutive, c'est ça
hein, pour la quatrième année.
On a l'habitude de se croiser du côté de Gap.
C'est ça. Alors l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture pour les néophytes, c'est qu'en championnat du monde, on corrige les notes de l'équipage le jour même, c'est-à-dire qu'au Rallye Monte Carlo, les conditions changent avec la neige, la glace, et en fait, on passe 2 heures avant, leur modifier les notes s'il y a de la glace ou sec, et faire le choix de pneus avec eux. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour un pilote français, un Niçois, qui va être dans la deuxième catégorie mondiale, c'est-à-dire le WRC2 avec des R5, avec une voiture qui a encore aujourd'hui jamais roulé en France, une Polo R5, donc le top de la catégorie. On va clairement jouer un podium mondial sur le Rallye Monte Carlo, donc dans la deuxième discipline, dans la deuxième catégorie. Au-dessus, il n'y a que le WRC, hein, avec les pilotes qu'on voit l'année dernière sur Équipe 21 et cette année sur Canal+. Donc pour moi, c'est une super expérience parce que là, je rentre dans le top niveau mondial. Je l'ai ouvert l'année dernière, s'est très bien passé.
Déjà lui, ouais.
Voilà, c'était déjà lui qui roulait dans une catégorie inférieure et il m'a encore fait confiance cette année. Moi, c'est une super expérience et on va dire que j'arrive à mon expérience des autres années, mes connaissances techniques, tout ça s'entremêle et j'espère pouvoir, parce qu'un ouvreur, ça peut pas faire gagner le Rallye Monte Carlo, mais ça peut le faire perdre. C'est ça. Parce que si on fait un mauvais choix au niveau des choix pneumatiques, c'est plus de 10 secondes au kilomètre perdu, donc c'est complètement sur un tour, c'est complètement, le rallye est terminé et si on n'y annonce pas une plaque de glace, il va sortir de la route, donc là le rallye s'arrête aussi, ou il vient heurter un rocher ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être fatal pour lui, donc une grosse responsabilité sur un Rallye Monte Carlo et c'est ça qui est très très intéressant.
Un petit mot sur le retour de Seb Loeb là, en rallye.
Ça a été le gros...
Parce que pour moi c'est un mystère en fait que ce garçon en plus arrive à il sort du Dakar c'était samedi après-midi je crois il a roulé avec un truc complètement différent, là il prend le volant d'une voiture qu'il a jamais vue ou peut-être à part en photo et il va probablement être dans le coup.
Je me fais pas de souci qu'il sera dans le coup. Après, ce qui est sûr, c'est que on va dire.
C'est quoi ton regard par rapport à ça, toi ? Est-ce que
c'est fou parce que déjà des, on va dire qu'il a arrêté depuis maintenant 6 ans hein, déjà. On l'oublie de le dire, mais ça fait 6 ans qu'il vient juste entre guillemets pour se faire plaisir.
Ouais, il gagne quand même.
Quand il vient,
il gagne.
Il est dans le... Du moins, s'il ne gagne pas, il est dans le coup.
Il
a gagné en Espagne. Mais on va dire qu'il n'a pas gagné à chaque fois. Ça serait mentir de dire qu'il a gagné à chaque fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été à chaque fois dans le coup. Après, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que y a des choses qu'on a du mal à comprendre parce que son contrat Citroën s'est arrêté après toutes ces années chez Citroën. Il arrive à signer un contrat chez Hyundai. Donc là, pareil, ça sera pas sur un championnat complet, ça sera sur, on va dire, juste pour se faire plaisir. Moi, ça m'a fait halluciner après, on n'est pas dans les chiffres, dans les budgets.
On va parler de Hyundai cette année parce que Loeb aussi.
Et voilà, c'est ça.
Donc en fait, ça s'autofinance.
Je pense clairement pour avoir vu l'intérêt. L'engouement auprès de Loeb quand Loeb vient faire un rallye championnat de France, on va dire que le rallye n'est pas le même. La présence au bord des routes et tout, quand on l'a vu au rallye du Var, c'est juste incroyable. C'est fou. Donc,
ouais, du coup, ils s'autofinancent en fait.
Je pense qu'ils vont, personnellement, je pense qu'ils vont s'y retrouver. Alors, est-ce que Citroën n'avait pas les reins assez solides pour le garder ? Est-ce que on saura jamais.
Ou Ogier a mis ça dans la balance, peut-être ?
Non, je pense vraiment que ça soit pas sportif, mais financier, clairement, parce que les budgets sont pas élastiques. Ils ont, on va dire que les parties compétition ont des comptes à rendre à la marque. Et clairement, je pense qu'il y a ce côté-là. Après, Loeb, il est dans un esprit de se faire plaisir. Il n'est pas là pour gagner le championnat. Il est là pour se faire plaisir.
C'est là qu'il est plus dangereux, par contre.
Voilà, c'est ça. Il est clairement là pour se faire plaisir parce que c'est avant tout un passionné de rallye et d'aventure. On l'a vu avec le rallye raid. Le rallye raid, ça y plaît parce que voilà, je le prends comme un grand enfant qui n'a plus rien à prouver à personne. Aujourd'hui, il a fait son job en tant que pilote professionnel. Là, il est allé faire le Dakar avec des fonds privés, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'il n'était pas payé par personne. Il avait juste envie de se faire son Dakar. Et il s'est monté son projet. Forcément, quand on s'appelle Loeb, ça doit plus être facile de trouver des partenaires.
Que quand on s'appelle Bernardi.
voilà. Mais on va dire que ce n'est pas tous les anciens pilotes professionnels qui entre guillemets, vont se lever le matin en disant « je vais aller taper des sous à des partenaires pour aller me faire un Dakar ». Et ça, voilà, ça montre que la philosophie, elle est complètement différente que quand on est pilote professionnel. Donc voilà, après, on se languit parce que avec le retour d'Augier, donc du français chez Citroën, le champion du monde en titre, donc je crois que c'est 14 titres de champion du monde consécutifs entre Loeb et Augier. Ouais. Donc voilà, il va être forcément. Enfin, pour moi, il va encore jouer le titre cette année, même s'il a changé d'écurie. Loeb va venir foutre son petit grain de sable au milieu de tout ça. Mais voilà, après, comment on va gérer chez Hyundai l'envie de gagner le titre avec Neuville et les one-shot, ce qu'on appelle les one-shot, c'est venir occasionnellement
bien sûr.
De Loeb. Comment ça va être joué en interne? Je pense que, enfin, je préfère être à ma place qu'à la place du chef du team manager de chez Hyundai. Je ne sais pas comment ça va être géré, on verra ça au Monte Carlo s'il y a des décisions à prendre ce week-end, mais je pense que je me languis de voir ça parce que je pense que ça va être bien animé ce championnat.
Ben écoute, on te souhaite de t'éclater.
Oui. Merci.
T'es parti pour, en tout cas.
Oui, oui.
Un dernier mot, ta frangine, elle a pas. J'ai vu qu'elle copilotait ton père, là, dernièrement.
Ouais, ils ont fait le Vaucluse.
Ouais, elle a pas envie de s'asseoir à côté de son frère pour faire un peu. Pour lever un peu le niveau.
Non, elle est plutôt dans un esprit de plaisir. C'est vrai qu'au niveau où on est, nous, il y a le côté plaisir.
Pour
mais
pour
y a...
elle.
Non, mais c'est plutôt un choix. C'est-à-dire qu'au niveau où on est, ça demande beaucoup de contraintes, que ce soit au niveau du temps, au niveau préparatif. On travaille beaucoup avant les courses, que ce soit nos caméras, comme je disais, voilà, toute la préparation, la recherche de partenaires. Et ça, elle n'est pas dans cette optique-là. Elle est vraiment dans une optique de loisir et de se faire plaisir au volant ou à côté de ses amis et de son père.
Écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir, Flo.
Merci beaucoup à toute l'équipe.
C'est toujours un plaisir de te recevoir, ici ou ailleurs d'ailleurs, vraiment un bon moment passé
merci,
avec toi.
Merci.
Et un grand champion quand même s'il a été longtemps...
il est un grand champion,
même s'il a été
ami.
Longtemps deuxième, c'est un grand champion quand même.
Parce que quand me même dit que être... je... Enfin, que j'avais la hargne parce que beaucoup auraient baissé les bras avec ça, mais je pense que c'est ça qui m'a rendu un petit peu à rien lâcher et je regrette pas parce que j'ai vécu de très très belles choses toutes ces années.
Tu es un vrai passionné en fait.
Voilà, c'est ça, voilà. Tout simplement.
Il faut
tout simplement, tu
il
cherches
faut.
Pas en fait la gagne financière, tu cherches non. Avant tout de pratiquer la discipline pour laquelle, je veux dire, tu t'es donné à fond quoi.
Voilà, c'est voilà. Ça. Et sportivement, ce que j'aime, c'est voilà, aller sur des championnats d'Europe, c'est juste incroyable parce que quand j'étais minot, faire des rallyes comme ça, ça me faisait rêver. Et aujourd'hui j'y suis.
T'as réalisé ton rêve.
Voilà, c'est ça.
Tout simplement.
Je pense que je me dis que c'est que du plus aujourd'hui et j'espère le faire le plus longtemps possible.
Bah écoute, on va te libérer. En tout cas, on se tiendra au courant. Il y a une date le 8
mars, voilà,
mars
8
je
mars
crois.
Pour la présentation.
Et puis on reviendra vers toi.
Je t'en dirai plus rapidement, j'espère.
Merci Flo, merci, à très bientôt. Et
merci
puis,
à vous.
Petite pause musicale avant de revenir pour les résultats.
RTVFM, l'esprit jeune.
Mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mes mots
suis là pour le pire. Qui se moque de toi se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, de retour pour la dernière partie de cette émission avec, avec les résultats. On a passé un bon moment, un très très bon moment avec, avec Flo Bernardi. Et maintenant, on va passer aux résultats locaux.
Mais
Valérie.
Juste avant de venir aux résultats, ce qu'on disait en off sur justement Florian, hein, qui est parti parce qu'il avait d'autres priorités aussi, hein, donc d'autres choses à faire. On disait que c'est quand même un garçon. Bien dans sa tête, on le voyait, très calme, très posé. Donc je m'étonne pas de ses résultats et je m'étonne pas. Il a une bonne philosophie, c'est un bon petit gars comme on dirait, nous les petits vieux.
Souvent les bons mecs font les grands champions et voilà, tu peux pas être un grand champion si t'as pas un minimum de cerveau et quand en plus ton sport, c'est du sport automobile. Tous ces gens qui font du sport automobile, qui arrivent à ce genre de résultats, c'est pas par hasard. C'est pas parce qu'ils ont simplement un bon coup de volant. Il y a toute une philosophie qui se met en place derrière. Voilà, Flo, c'est ce que je pense de lui. Je lui ai déjà dit plein de fois. Et c'est toujours un énorme plaisir de le croiser et d'échanger avec lui.
On lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année 2019.
Ouais, carrément.
Voilà, donc les résultats, je vais commencer avec le basket, avec l'ABC de Carpentras. Donc en U13 filles, Carpentras recevait Avignon-le-Pontet. Carpentras s'est imposé 44-26.
Juste pour les auditeurs qui ne peuvent pas assister à ça, mais Valérie a un problème avec son siège depuis à peu près le mois de septembre.
C'est de ma faute parce que je mets les jambes sous ça. Le siège et je me fais baisser à chaque fois mon siège. Allez, je continue. En U18 filles, Avignon, Le Pontet recevait cette fois-ci Carpentras. Et Carpentras, là encore, s'est imposé 51-40. En U18 garçons, Carpentras recevait Morières. Et Carpentras, donc, l'a emporté de justesse 46-45. En U17 garçons régional, Carpentras recevait Cabriès. Et là, malheureusement, Carpentras s'est donc incliné sur le score de 51-60. En senior fille, Carpentras recevait Orange. Encore une victoire, Carpentras 71-52. Et enfin, en senior garçon, Carpentras se déplaçait à Fos et Carpentras s'est incliné 62-70. Je viens avec le basket avec l'équipe de National 1 de Sorgues qui recevait First, tout à l'heure tu l'as dit, et qui a gagné sur le score de 80-79.
Ouais, match de fou pour les gens qui étaient à la salle avec une superbe victoire des Sorguets. Et puis un William Mensah, le meneur qui est en feu en ce moment avec, des stades juste incroyables. Et puis une belle façon de préparer le match de 16e de finale de la Coupe de France qui aura lieu demain à la Plaine Sportive. On y sera, Valérie, on sera en direct avec l'équipe Lionel. Technique, Lionel, Valérie et moi.
Et Florian.
Probablement Florian, bien sûr, notre technicien. Et on aura le petit Hugo qui va probablement nous filer un petit coup de main pour
comme le premier match qu'on a
amener sa touche technique. Mais voilà, on a hâte d'être à cet événement de demain soir du côté de la Plaine Sportive à Sorgues. Venez nombreux ou alors écoutez-nous sur RTVFM. Net.
Déjà, le premier match de Coupe de France, le gymnase était plein.
Ouais, nul doute que ça sera encore le cas de demain.
Donc, Sorgues est sixième au classement général, hein, donc avec 29 points, à 3 petits points du troisième Saint-Vallier, hein, qui compte quand même un match d'avance.
Ouais, alors à noter un truc important qui passe un petit peu inaperçu, mais avec cette victoire du côté de Feur, les Sorguais ont quasiment assuré leur maintien national 1. Ah, oui. Voilà, c'est une très belle surprise. On sait que par le passé, il y a eu quelques difficultés pour se maintenir. C'était souvent au dernier moment. Là, ça y est, le maintien est quasi assuré. Il est assuré. Et on va pouvoir maintenant regarder plus haut hein, avec la poule du milieu qui nous amène vers les play-offs.
Ben oui. Et on espère demain avoir un superbe match. Et pourquoi pas une victoire contre Nancy, hein, qui est en Pro B. Hein,
en Pro B, ouais. Nancy, c'est une ancienne équipe de Pro A qui maintenant évolue en Pro B. Et ben, ça nous promet un petit peu de spectacle. On rappellera juste au tour précédent, les Sorguais avaient sorti une équipe de Pro A. Ouais. Donc au basket, rien n'est impossible avec un petit peu de
cœur. Un public aussi chaud cœur, comme on l'a vu la dernière fois.
Absolument.
Je vais continuer avec le handball, avec Mazan. Bouillargues, donc Mazan, hein, puisque Mazan s'est déplacé à Bouillargues et l'a emporté sur le score de 30-24. Au classement général, Mazan est revenu à la cinquième place, à 5 petits points du premier qui est Lagarde. Donc rien n'est impossible hein, pour être parmi les trois premiers, on va dire.
Ouais, et puis superbe résultat encore une fois des filles de Mazan là, qui ont eu une période un petit peu compliquée, puis finalement qui s'en sortent et qui sont allées chercher une jolie victoire dans le Gard du côté de Nîmes. Voilà, c'est
Et j'ai lu que Pascal, enfin que les coachs avaient mis beaucoup de jeunes évoluant dans
alors,
une catégorie aussi.
C'est un petit peu le cas depuis maintenant deux ou trois week-ends où il a intégré une ou deux moins de 15 dans le groupe senior. La petite Audibert qu'on connaît puisque c'est une bédaridaise, mais la petite Audibert qui a l'habitude d'évoluer en moins de 15, qui a fait son premier match la semaine dernière en première en N2, qui a marqué un but ou deux d'ailleurs me semble-t-il, et puis là qui était encore aligné. Donc c'est bien parce que c'est la philosophie de Pascal Vassé et de l'entraîneur hein. On joue une compétition mais on continue à faire de la formation. Et je trouve que ça, c'est une excellente nouvelle.
Et ça motive justement les autres aussi, les autres filles. Hein.
Ben bien sûr, parce que ça leur montre que rien n'est impossible et qu'entre le moins de 15 et la nationale 2, il y a juste rien. Quoi. Il suffit juste d'y croire.
Allez, chez les moins de 18 ans, en Challenge France, Mazan donc, s'incline à Bouc-Bélair sur le score de 25-17. En pré-national, Mazan donc, l'emporte à Pérol sur le score de 38-23. En championnat de territoire, l'entente Carpentras-Mazan donc, l'emporte à Avignon sur le score de 33-15 et prend provisoirement la tête de la poule. Chez les moins de 17 ans, Élite PACA, Mazan donc, rencontrait Toulon et Mazan s'est incliné sur le score de 22-32. Et enfin, chez les moins de 15 ans, en Élite PACA, Mazan l'emporte face à Avignon sur le score de 25-19. Donc de très 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 bons résultats pour le club de Mazan. Hein. En football maintenant, en Ligue Méditerranée, en Régional 1, hier rencontré Pernes et 0 partout. Donc le classement général, Pernes est 12e. Chez les féminines, en Régional 1, Monteux recevait Nuance Sartoux. Et là, Monteux s'est imposé 7-0.
En parlant de football féminin, les filles de l'AC Avignon ont été battues en Coupe de France face à Nice, me semble-t-il. Elles avaient fait un parcours plutôt intéressant, les filles, avec deux belles victoires presque inespérées, on va dire. Et puis là, elles ont explosé.
Nice, c'est quand même une grosse équipe.
Quart de finale,
hein.
Me semble-t-il. Nice, équipe. C'est gros. Ouais. Et en tout cas, bravo.
On en revient toujours
de...
pareil. Nice a de l'argent. Que peut-être que Avignon n'a pas autant. Quoi.
Ouais, et puis voilà, bon, après, il y a un historique du côté de Nice aussi pour le football féminin. Mais en tout cas, bravo pour les filles de l'ACA qui ont fait un superbe parcours en Coupe de France.
Je reviens donc en Régional 2, poule C. Donc Carpentras se déplaçait à Fréjus et Carpentras donc a fait le match nul, un partout au classement général. Carpentras est sixième. En championnat Grand Vaucluse en D1, Cavaillon-Pernes, 0 partout. Au classement général, Pernes est 9e. En D2, poule B, Saint-Didier rencontrait Mollégès. Et là aussi, match nul, 1 partout. Au classement général, Saint-Didier est toujours 14e et dernier.
Ah, mais Saint-Didier.
Voilà.
Un petit coucou d'ailleurs aux joueurs et aux dirigeants de Saint-Didier qu'on avait reçus en tout début de saison et avec qui on avait passé un excellent moment. Voilà.
En D3, poule A, donc Monteux recevait Malocène, 0-2. Au classement général, Malocène est 7e et Monteux 10e. En poule B, Carpentras recevait Piolenc, 1 partout. Bolène, Étoile d'Aubune, 4-1. Sarriant, Travaillant, 2-3. Au classement général, Carpentras est 2e à 5 moins des premiers Altins. Sarriant, 10e. L'Étoile d'Aubune, 11e et 42e. En D4, poule B, Saint-Didier rencontrait Rasto, 1-3. Serre recevait Piolenc, 2-1. Au classement général, Serre est toujours premier. Hein, et Saint-Didier est 7e avec toujours un match de retard. Je voulais reparler de rugby à 13 pour donner le résultat.
Parlons de rugby à 13.
Voilà, des U19 chez les juniors, donc, en déplacement à Saint-Estève, ils se sont imposés 30-22. Eux aussi fonctionnent et marchent très bien, les U19.
Et en parlant de rugby à 13, signaler le beau match d'Entraigues hier.
À Villefranche-Aveyron.
Voilà, qui ont été battus par Villefranche d'Aveyron. Ça fait râler, c'est un résultat râlant parce que les Entraigois menaient jusqu'à la 82 ou 83e minute. Arrêt de jeu, ils encaissent un essai à la dernière minute, dans les arrêts de jeu. Et du coup, ça plombe un peu la saison. Match. Et ça fait deux ou trois résultats comme ça que les Entraigois n'arrivent pas à conserver, malheureusement.
Entraigues est septième, quand même.
Bon, Entraigues est septième, mais voilà. Alors,
ils
on espère.
Ils ont pris un coup au moral, comme on dit.
Ouais, on connaît les Entraigois, il en faut plus que ça pour leur casser le moral. Mais un petit mot sur la Coupe de France, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Carpentras qui se déplacera du côté de Lyon-Villeurbanne pour le huitième de finale de Coupe de France. Entraigues aussi a tiré
un gros
d'élite 2, c'est Villegayenc. Ouais. Donc c'est jouable aussi pour les Entraigois et on espère pourquoi pas
un quart de finale
entre équipes d'élite 2 entre Entraigues et Carpentras.
Pourquoi pas.
Ça serait un truc sympa à vivre et même à commenter.
Bien sûr. Il n'y a pas de souci. En rugby à 15, Fédéral 2, Château-Renard, Prades, 50-24. Donc Château-Renard est au classement général premier. Hein. Un match
après
de
avoir,
problème. Quoi.
Après avoir eu un début de saison très, très, très compliqué, il s'est passé un truc à Château-Renard. Alors peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais il y a quelques semaines, ils ont perdu un personnage important à Château-Renard qui s'appelait Daniel Saubier. Un mec qui avait... était l'entraîneur de Château-Renard pour les titres de champion de France. Ça fait une espèce de légende, on va dire, Daniel. Et j'ai l'impression que le départ de Daniel, la mort de Daniel, a amené une espèce de supplément d'âme à cette équipe de Château-Renard. J'en ai parlé avec un joueur ou deux que je connais, avec qui j'échange. C'est malheureusement c'est pas la seule raison, mais bien sûr il faut plus que ça, hein. Oui. Mais ça a amené un petit supplément d'âme. Ils ont eu un début de saison compliqué et puis là ils sont en train de se refaire la cerise, tant mieux. Ils vont se qualifier et pourquoi pas essayer de jouer une montée en Fédéral 1. Et
parce
rejoindre
que là ils sont bien partis, hein, premier.
Ouais, alors le championnat est long et puis après tu sais pour monter il faut passer des tours de play-off, donc c'est un petit peu compliqué, mais il vaut mieux attaquer les play-offs en étant premier ou deuxième que sixième.
D'accord. Et enfin, en Fédéral 3, Monteux recevait Draguignan. Et là, Monteux s'est incliné sur le score de 10-29. Monteux est dixième. Donc, ils ont du mal, Monteux.
Ouais, saison compliquée pour Monteux, mais on le savait. On le savait en début de saison. Là aussi, hein, il y a eu des soucis extrasportifs, on va dire, avec cette histoire d'URSSAF là, qui a un peu plombé le moral.
Mais c'en est une des
incidents. Ça y est, le club a été sauvé, notamment grâce à l'aide de dirigeants d'autres clubs. On peut citer M. Bellucci, le président de Bédaride, qui a mis... un petit peu la main à la poche, et surtout l'ensemble des clubs et du comité qui se sont solidarisés autour de Monteux. Le club est sauvé financièrement, maintenant il va falloir le sauver sportivement, ça va être un petit peu compliqué. Pour moi, ça va être un petit peu compliqué.
Je pense que ça ira peut-être mieux la saison prochaine. Cette saison, on va dire qu'elle est un petit peu, entre guillemets, morte, le tout c'est de se maintenir et puis voilà.
On touche un petit peu les limites pour moi de Monteux à ce niveau-là en Fédéral 3. Autre club de Fédéral 3 qui nous concerne, c'était Le Ponté et Valréas qui s'affrontaient du côté de Valréas. Une parodie de rugby, une bouillie de rugby, des cartons jaunes. 8 cartons jaunes, 3 cartons rouges.
Un match
dégueulasse, au dire des gens qui ont participé. Et défaite du Ponté sur le score de 24-10. Voilà, c'est le Ponté 8e. Là aussi, c'est un projet de reconstruction avec deux nouveaux entraîneurs, Mika Mabillon, qui est champion de France avec Bédaride, et Ludo Zanini, qui était l'an dernier joueur avec Béda. Voilà, ils ont repris le Ponté. Tout était à reconstruire, ils le reconstruisent plutôt pas mal, 8e. Y a du boulot, mais voilà, la saison est belle malgré cet accro hier du côté de Valréas.
Voilà, pour les résultats, on en a terminé ce soir.
Eh bien écoute Valérie, merci, merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci Flo. On se retrouve demain, c'est vrai, j'allais
dire. À la plaine, à Sorgues.
J'allais vous dire à la semaine prochaine, mais non, c'est demain à partir de 20h, peut-être un petit peu plus tôt d'ailleurs, aux alentours de
19h45,
et ça va, ouais, tu vas pas commencer.
19h45,
peut-être pas. Allez, 19h, je vais y arriver.
Tu essaieras de faire les interviews des joueurs, ou leur première, ou peut-être de l'entraîneur.
Ah ouais, alors, on prendra peut-être l'antenne un petit peu avant.
Tu descends dans la fosse et
effectivement, je descendrai. Mais en tout cas soyez à l'écoute demain à partir de 19h30, Flo, pour assister à l'avant-match, au match et à l'après-match.
Et on sera sûrement avec Lionel qui nous aura rejoint.
Et un petit bonsoir à Lionel qui nous a lâchement abandonné ce soir. On va te choper demain, Lionel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et passez une excellente semaine si vous ne nous écoutez pas demain soir.